Et dans nos conversations avec Daniel Habert ce matin, il va être question sur l'annonce, et on va revenir sur l'annonce de Donald Trump concernant la guerre commerciale qu'il a donc enclenchée. On se focalise sur les conséquences sur la géopolitique mondiale. Voici donc Daniel Habert qui répond aux questions de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations du lundi matin. Alors la semaine passée, Daniel, coup de tonnerre, même si on s'y attendait un petit peu. Mercredi soir, Donald Trump a présenté sa liste des droits de douane qu'il allait appliquer un peu à tous les pays du monde. On est face à une guerre commerciale qui sature l'espace médiatique, mais c'est pas pour autant qu'on comprend en profondeur ce qu'il se passe. Pouvez-vous nous expliquer?
Oui, vous avez raison de poser cette question-là, parce que autant on comprenait la volonté de Trump de mettre fin au conflit militaire en Ukraine et aussi il l'avait annoncé pour le mois de mai avec l'Iran au Moyen-Orient, on comprenait que pour lui la guerre s'est dépassée, la guerre militaire s'est dépassée, c'est pas quelque chose qui ressort du 21e siècle, c'était pas bête. Le fait d'en faire non pas une priorité mais une urgence, il avait raison parce que chaque jour il y a des morts et il faut bien sortir de là. Et donc on arrivait à comprendre Trump d'une certaine manière, hein. Et j'avais même dit que contrairement à ce qu'on pense, il ne crée pas le désordre. Le désordre, il l'a trouvé. C'est la guerre. C'est pas lui qui l'a créé, la guerre. Et donc vouloir mettre fin au désordre, au contraire, c'était bien. Mais là, avec la guerre commerciale, on voit qu'il met le désordre. Et que au fond, il ne maîtrise pas ce qui va arriver. Donc tous ceux qui réfléchissent un peu voient bien que la première victime de ce désordre, ça risque d'être l'Amérique elle-même. Les consommateurs américains vont payer beaucoup plus cher leurs produits et l'idée que ça a pour objectif à long terme de ramener des industries aux États-Unis est une idée un peu irréaliste dans la mesure où premièrement les usines quand on les ramène ça fait beaucoup d'années à le faire, c'est long et puis surtout on est en plein emploi aux États-Unis quand ils faisaient son annonce de la guerre commerciale, on voyait des ouvriers avec le casque sur la tête, c'était pour montrer que ce qu'ils faisaient c'était pour l'ouvrier américain, son électeur, mais on est en plein emploi et donc ce qui risque d'arriver si des usines se rapatrient, il y en a qui se rapatrient où il y a des délocalisations vers les États-Unis, c'est que les coûts de production vont être très élevés parce que comme on est en plein emploi, les salaires vont bondir et donc ça va alourdir la facture et l'inflation mondiale va partir et les premières victimes sont les Américains. Donc cette absurdité, elle frappe tout le monde et pas lui. Donc on est amené à se dire, est-ce qu'il a une stratégie ? Et donc, c'était un petit peu le thème que je voulais développer aujourd'hui. Je crois que Trump n'a pas de stratégie, n'a pas de politique extérieure toute faite. Il a un projet. Et ce projet, c'est, il l'a dit, hein, c'est « Make America Great Again ». Et il croit que c'est en isolant, au fond, pas sur le plan économique, les États-Unis vont continuer à faire beaucoup d'affaires dans le monde, mais en étant hors de toute organisation, hors de toute alliance, et je suis tout seul face au monde, et que ce soit mes amis ou mes ennemis, je les considère un peu comme des étrangers à moi, donc je ne crois pas. Et donc ce sont des siècles de progrès, d'une certaine manière, auxquels on renonce. Et donc le projet part de cette idée que finalement les Américains, depuis 45, l'ordre mondial qu'ils ont établi, finalement, ça leur a coûté cher. Ils ne voient pas les bienfaits dont ils ont bénéficié, ils voient les coûts. Et c'est vrai qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. On rappelle toujours le plan Marshall, on rappelle la défense de l'OTAN, la défense des Japonais, des Coréens. C'est vrai que les Américains dépensent beaucoup d'argent et ont sacrifié beaucoup d'hommes au nom d'un ordre mondial démocratique. Et c'est vrai qu'en retour, ils ont deux constatations. C'est qu'il y a un pays comme la Chine qui tout d'un coup apparaît tout neuf, avec des infrastructures modernes, le plus grand réseau de TGV du monde, alors que les Américains, ils ont encore des trains qui datent du 20e siècle, voire du 19e. Donc ils disent finalement, on a dépensé cet argent à l'extérieur et pas chez nous. Et en plus, et je crois que c'est pas faux, le monde ne nous en est pas gré. C'est-à-dire que tout le monde tape sur les Américains. Les Américains, par exemple, je pense aux Français, qui sont parmi les cibles des Américains avec les droits de douane sur le vin, etc. Les Américains n'ont jamais oublié et les discours de Gaulle au moment de la guerre du Vietnam et les discours de Dominique de Villepin au moment de la deuxième guerre du Golfe. Et donc ils en avaient conclu que ces soi-disant alliés étaient prêts à leur marcher sur la tête. Donc il y a cette révolte au fond américaine par rapport à l'ingratitude. Et je pense beaucoup à la gratitude de ce qu'on appelle le Sud global, tous ces pays en voie de développement, à qui les Américains envoient des tonnes d'argent, d'aide, etc., et qui finalement se retournent toujours contre les États-Unis. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc à partir d'une analyse qui n'est pas fausse, il prend des mesures dont tous les experts disent qu'elles sont contre-productives. Donc je m'arrête là pour cette première question en disant que il est probable que la réalité, comme d'habitude, va réagir, va montrer qu'il est allé trop loin, qu'il y aura des accommodements et qu'il y aura des réactions. Mais je pense que les réactions les plus importantes, ça sera aux États-Unis même, au moment des élections à mi-mandat. S'il y a une inflation importante, il risque de perdre toutes les majorités à la Chambre des représentants et au Sénat.
Alors justement, en se focalisant sur cette guerre commerciale, est-ce que cela n'occulte pas toutes les autres promesses de Donald Trump, notamment la résolution des deux conflits au Proche-Orient et en Ukraine?
Alors, il n'y a pas de rapport entre les deux, mais on pourrait faire la même analyse, à savoir que ce qu'il voulait faire et qui était pas mal se heurte au principe de réalité. C'est-à-dire que les dictateurs avec qui il veut faire des accords ne marchent pas. Ils marchent pas, ils essaient de profiter. Ils ont compris que Trump était pressé, ils ont compris. Ils n'ont pas un jugement très positif sur l'homme Trump. Hein. Ils pensent que c'est un imbécile et donc qu'ils peuvent le manipuler. On voit bien la façon dont Poutine réagit. On voit comment les ayatollahs refusent même l'idée de parler aux Américains et ils disent, bon, si on parle, on se parlera indirectement et on parlera pas de la bombe. Donc c'est un défi qu'il lance à Trump. Je dirais que ils sont quand même vigilants, les dictateurs, parce qu'ils savent que Trump peut inverser les choses du jour au lendemain. Donc ils savent qu'un homme comme ça, il faut pas le transformer tout d'un coup en ennemi parce qu'il peut être pire qu'avant, pire que les autres. Je pense que les Iraniens seront les premiers à se rendre compte de ça, et ils voient déjà les préparatifs de guerre qui sont annoncés évidemment, volontairement, pour dire aux Iraniens, si vous négociez pas, ça sera un bombardement de vos d'un certain nombre de vos installations, et on ne dit pas lesquelles. Quant à Poutine, je crois qu'il est assez malin pour comprendre qu'il ne faut pas les pousser trop loin, pour loin Trump. Donc, vous avez raison, là aussi, le principe de réalité fera je pense qu'on trouvera des accommodements. Le risque, c'est que ces accommodements seront pas des bons accommodements, ils seront purement temporaires et surtout qui risquent de ne pas satisfaire ni les Ukrainiens d'à côté, ni les Israéliens, parce que c'est ça qui nous intéresse. Je pense qu'Israël aujourd'hui se fait beaucoup de soucis. Je parle beaucoup avec. Vous savez, parce que Obama avait passé un très mauvais accord en 2015. Il n'est pas impossible que Trump passe un nouveau mauvais accord avec les Iraniens. Il sera un peu meilleur, mais il sera toujours pas suffisamment bon. Voilà, c'est ça le danger.
Et Daniel Haber, on arrive à la fin de nos conversations. Déjà, on pourra revenir hein, sur ce sujet dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce lundi matin et puis on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.